La semaine dernière, on a profité de ce temps magnifique là qu'on a depuis quelques jours avec Rebecca. On allait se promener dimanche après-midi. Et puis, en se promenant, on discutait un petit peu et on se disait qu'on était vraiment heureux des cultes qu'on a vécus récemment. On a vraiment senti que Dieu nous avait bénis. On a vraiment senti que Dieu avait conduit les choses. Parce que dans ces différents temps de culte, il y a eu des interventions, il y a eu des prédications, il y a eu des temps de louange, et tout cela faisait un tout cohérent. Tout était lié, pertinent, parlant, et pour nous c'était vraiment un sujet de reconnaissance, et c'était vraiment un encouragement. Et puis je lui ai dit, en plus de mon côté, moi, ce qui m'a touché, c'est aussi les personnes qui ont apporté les prédications. C'était vraiment, je trouvais les bonnes personnes pour ça. Damien nous a parlé du service et à quel point il aime servir. Janine nous a parlé de la prière. Et si vous connaissez Janine, vous savez la passion qu'elle a pour la prière. Et là, Rebecca me répond du tac au tac. Et toi, dimanche prochain, tu parles du gars malhonnête, c'est ça? Je ne sais pas à quel point je suis à l'aise avec la conclusion qu'il faudrait tirer de cette observation. Mais oui, ce matin, on va parler du gars malhonnête. Et si j'étais pas à l'aise avec l'observation, je dois reconnaître qu'on n'est pas forcément non plus à l'aise avec cette parabole. Elle n'est pas simple. D'ailleurs, si dans votre Bible il y a des petits titres sur chaque passage, ou si vous regardez un commentaire, vous verrez que cette parabole, elle est appelée la parabole du gérant malhonnête, ou de l'intendant habile, ou de l'intendant avisé. On ne sait pas trop à quel point ce personnage principal de l'histoire est un modèle. Et si vous creusez un petit peu plus, vous verrez qu'il y a des interprétations parfois assez divergentes de cette parabole. Elles ne se rejoignent pas toutes. Elle fait effectivement partie des paraboles avec lesquelles on est le moins à l'aise. Je vous ai donné envie, j'espère, d'en savoir un peu plus. Du coup, je vous invite à la lire. Et donc, on va la lire dans la version Semeur, Luc chapitre 16, les versets 1 au la première partie du verset 8. Jésus dit encore à ses disciples, « Un grand propriétaire avait un gérant. On vint lui dénoncer sa conduite, car il gaspillait ses biens. Le maître le fit appeler et lui dit, « Qu'est-ce que j'apprends à ton sujet ? Remets-moi les comptes de ta gestion, car tu ne continueras pas à gérer mes affaires. » Le gérant se dit, « Que vais-je faire, puisque mon maître m'enlève la gestion de ses biens ? Travailler comme ouvrier agricole ? Je n'en ai pas la force. Me mettre à mendier, j'en aurais honte. Ah ! Je sais ce que je vais faire pour que des gens me reçoivent chez eux lorsque j'aurai perdu ma place. » Là-dessus, il fit venir un à un tous les débiteurs de son maître. Il dit au premier, « Combien dois-tu à mon maître ?» 40 hectolitres d'huile d'olive, lui répondit celui-ci. Voici ta reconnaissance de dette, lui dit le gérant. Assieds-toi là, dépêche-toi et inscris 20 hectolitres. Ensuite, il dit à un autre, et toi, combien dois-tu ? 500 sacs de blé. Prends ta reconnaissance de dette, reprend le gérant, et inscris-en 400. Le maître admira l'habileté avec laquelle ce gérant malhonnête s'y était pris. Ben ouais. C'est quand même un peu étonnant comme histoire. On n'est pas très à l'aise quand même avec cette histoire. Il y a quelque chose de positif qui semble remonter de l'attitude de ce gérant, son habileté. Mais fondamentalement, c'est malhonnête ce qu'il fait là. On est d'accord. Alors, dans certaines paraboles, c'est pas vrai pour toutes, mais pour certaines paraboles, Jésus commente la parabole, apporte quelques mots d'explication pour nous aider à en comprendre le sens et l'application. Et c'est le cas ici, donc je vous invite à lire la suite. En effet, ceux qui vivent pour ce monde sont plus avisés dans leurs affaires avec leurs semblables que les enfants de la lumière. Et moi, je vous le déclare, si vous avez de ces richesses entachées d'injustice, utilisez-les pour vous faire des amis. Ainsi, le jour où elles vous échapperont, ils vous accueilleront dans les demeures éternelles. Si quelqu'un est fidèle dans les petites choses, on peut aussi lui faire confiance pour ce qui est important. Mais celui qui n'est pas fidèle dans les petites choses ne l'est pas non plus pour ce qui est important. Si donc vous n'avez pas été fidèle dans la gestion des richesses injustes, qui vous confiera les véritables ? Si vous n'avez pas été fidèle dans la gestion du bien d'autrui, qui vous donnera celui qui vous est personnellement destiné ? Aucun serviteur ne peut être en même temps au service de deux maîtres. En effet, ou bien il détestera l'un et aimera l'autre, ou bien il sera dévoué au premier et méprisera le second. Vous ne pouvez pas servir en même temps Dieu et l'argent. Alors, c'est plus clair, n'est-ce pas ? Il y a beaucoup de phrases qui sont compréhensibles, mais on a un peu de mal à faire le lien entre toutes ces phrases, à trouver le fil conducteur et à comprendre ce que Jésus veut vraiment dire. En plus, au passage, il nous envoie un petit pic, n'est-ce pas ? Pour dire que nous, enfants de la lumière, on est finalement un peu moins avisés, un peu moins malins que pour certaines choses, là, dans ce cas, nos affaires, que ceux qui ne le suivent pas. Bon, ok, prenez ça au passage. Il dit aussi qu'on peut avoir des richesses injustes et qu'il faut les utiliser. D'ailleurs, il nous appelle à nous faire des amis avec ces richesses injustes. Mais là où ça peut paraître un peu perturbant, c'est que juste avant, à la fin du chapitre 15, Jésus raconte la parabole du fils prodigue qui, lui, s'est fait des amis avec ses richesses. Et dans ce contexte, ce n'était pas forcément quelque chose de très positif. Bref, de quoi nous laisser un peu perplexes. Comment comprendre cela ? Comment comprendre cette parabole ? J'aimerais voir avec vous et faire ressortir qu'il y a deux choses dont on peut tirer de cette parabole. Deux belles invitations. Une invitation à l'action et une invitation à la réflexion et l'examen. Alors, comme vous le savez, on est dans une série sur les paraboles qui sont spécifiques à l'évangile de Luc. Et dans les prédications précédentes, on a déjà évoqué certaines choses, certains éléments de compréhension. Et là, pour cette parabole, il faut vraiment y revenir et insister plus spécifiquement sur certains points. Quelques éléments de compréhension. Premièrement, sur les paraboles. C'est particulièrement important parce que je me souviens qu'il y a 2 ans, j'ai lu, peut-être un peu plus, j'ai lu un livre qui s'appelle « Un nouveau regard sur la Bible », un livre qui parle justement de l'interprétation des différents types littéraires qu'il existe dans la Bible. Et les auteurs disaient que les paraboles, c'est les passages de la Bible dont l'interprétation a été le plus catastrophique dans l'histoire de l'interprétation. Il y a un seul type de texte qui bat les paraboles, c'est l'Apocalypse, pour vous dire où on en est. Alors, il est important de se rappeler que les paraboles, ce sont des illustrations, soit par des comparaisons, des analogies, des hyperboles, ou parfois c'est des petites histoires qui ont pour but d'illustrer quelque chose. Et à une exception près, qui pour moi même est discutable, qui est la parabole du fils prodigue, la parabole illustre un message principal et un seul. Et à moins que Jésus donne l'explication sur les différents éléments de l'histoire, ces éléments ne servent qu'à illustrer ce message, à renforcer le propos qui est tenu. Et donc, il ne faut pas essayer d'en voir trop ou de surinterpréter certains éléments de la parabole. Par exemple, dans notre cas, il n'y a rien à comprendre derrière le fait que les débiteurs doivent du blé ou de l'huile d'olive ou que les quantités en question ont une représentation ou une interprétation à voir quelconque. Elles servent juste à illustrer que le maître est riche vu les quantités dont il est question. Mais c'est tout. Certaines paraboles sont très courtes, c'est juste une comparaison, mais d'autres sont un peu plus élaborées. Il y a une histoire, même si elle n'est pas très longue, mais il y a une histoire, il y a une intrigue. Et c'est le cas ici. Que va faire ce gérant qui est en train de se faire licencier ? Ce n'est pas forcément un grand suspense, mais on se pose la question. Et dans ces histoires paraboles ou ces histoires intrigues, il y a ce qu'on appelle un pivot ou un effet de retournement. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui change, parfois une surprise, quelque chose peut-être d'inattendu, de surprenant qui se passe, et le message se situe dans cette surprise ou cet inattendu. La difficulté qu'on peut avoir, c'est que, pour certains d'entre nous, on a peut-être entendu ces paraboles depuis longtemps, et du coup, on a un peu perdu cet effet surprenant, parfois dérangeant, ou peut-être simplement, ça ne fait pas référence à des choses de notre quotidien, parce que Jésus illustrait, par ces paraboles, des choses qui touchaient au quotidien des gens. Un berger. Il n'y a peut-être pas beaucoup de personnes dans notre entourage qui sont bergers. Mais un berger abandonne 99 brebis pour une seule. Est-ce que ça, c'est pas un peu surprenant? Est-ce que c'est pas étonnant? Mais cette brebis s'est perdue, et si c'est surprenant, c'est justement pour qu'on saisisse à quel point ce berger veut absolument la retrouver, cette brebis. Et c'est pour qu'on mesure l'immensité de la joie qu'il a lorsqu'il la retrouve. Un homme se fait détrousser, il est battu, blessé, et se retrouve sur le bord du chemin, et personne ne l'aide. Et tous ceux qui passent par là et qui sont supposés l'aider ne le font pas. Et la surprise, c'est un paria, c'est un homme méprisé, c'est un homme auquel on ne s'attendait absolument pas, qui va démontrer toute sa bonté et son amour en prenant soin de la victime. Dans notre cas, on a un homme, notre fameux gérant, qui doit s'occuper des biens et des richesses et de l'argent de son maître. Et comme je le disais, vu les quantités dont il est question, le maître est riche. Donc, cette position de gérant et d'intendant, c'est une position intéressante. Mais c'est un mauvais gérant. Le maître n'est pas content. Pourquoi ? Parce que ce gérant gaspille, dilapide ses biens. Et on vient même le dénoncer. Donc si on vient le dénoncer, c'est que cette mauvaise gestion était visible, connue de certains, peut-être même évidente. Entre nous, on peut se dire quand même que ce gérant n'était pas très malin. Parce que qu'est-ce qu'il croyait ? En ne s'occupant pas bien des affaires de son maître, en lui faisant perdre de l'argent et des biens, un jour ou l'autre, son maître allait forcément s'en apercevoir. Mais il ne s'en soucie pas. Il semble paresseux, négligent ou en manque de considération pour son travail. Et on est là avec ce premier tableau, ce gérant qui vit juste le présent, qui ne se soucie pas de l'avenir et qui est au milieu de richesses qui se gaspillent, qui se perdent, qui ne servent à rien à cause de sa négligence et de son inconséquence. Et donc, sans surprise, le maître le vire. Rends-moi les comptes, parce que quelqu'un d'autre va s'en occuper. Ce n'est pas acceptable ce que tu fais. Et là, c'est le pivot. L'élément de retournement arrive. De paresseux et inconséquent qu'il était, il se pose maintenant la question de l'avenir. Et il agit avec malice. Ses richesses, dont il ne s'occupait pas vraiment, peuvent maintenant lui être utiles. Et du coup, il réduit fortement les dettes des différents débiteurs. Il trafique les comptes. Pourquoi ? Pour se faire des amis et que ses débiteurs lui soient redevables. Alors certes, c'est un mauvais gérant, malhonnête. Mais il l'a toujours été. Il n'a jamais été fidèle à son maître. Il n'a jamais fait ce qu'il devait faire. Déjà avant, il faisait perdre de l'argent et des biens à son maître, par sa négligence et sa paresse. Maintenant, il continue d'en faire perdre à son maître, mais pour son profit. Alors, il n'y a aucun doute que son maître va le virer. Mais ce n'est pas ça que le maître retient ou que Jésus retient. Et ce pivot, ce point de retournement qu'il faut noter, c'est de voir que... de voir que de inconséquent et négligent qu'il était, il devient prévoyant. Il était paresseux et maintenant il montre qu'il peut être futé. Il avait des richesses à sa charge qui se perdaient, qui étaient gâchées et qui maintenant sont utilisées et servent à quelque chose. Et donc le message se situe là. L'autre point qu'il nous faut un petit peu éclaircir, c'est la suite. Et ce fameux verset 19. Si vous avez des richesses, de ces richesses, entachées d'injustice, les différentes versions bibliques ont richesse ou argent, et le terme grec parle d'injustice, d'iniquité, de méchant, de hors-la-loi, voire de trompeur, quelque chose de négatif lié à ces richesses, qui un jour vont manquer ou disparaître. Là, il faut qu'on revienne un petit peu sur la spécificité de Luc. On sait que l'évangile de Luc, ou que Luc, dans son évangile, a une attention particulière pour différents sujets, mais entre autres pour les pauvres, pour les riches et les richesses, et pour l'utilisation de ces richesses. Alors j'ai envie de dire, plutôt que de dire que Luc a une attention particulière, je dirais plutôt que Luc nous révèle l'attention particulière que Dieu a pour les pauvres, les richesses et leur utilisation. Et effectivement, quand on lit l'évangile de Luc, il est le seul à rapporter certains éléments, certains récits, la dispute d'un héritage. Il est aussi plus direct, plus tranché sur certaines questions. Par exemple, lui et Matthieu parlent tous les deux de l'invitation que Jésus lance à s'enrichir dans les vraies réalités, célestes et non terrestres. Tous les deux ont ce verset « Constituez-vous un trésor inaltérable dans le ciel ?» Tous les deux disent « Car là où est votre trésor, là aussi sera votre cœur. » Mais Luc va un peu plus loin, il est un peu plus tranchant, parce qu'il est seul à dire cette parole de Jésus « Vendez tout ce que vous possédez et distribuez-le aux pauvres. » Pour Luc, ces richesses injustes sont les richesses terrestres. L'argent et les biens que nous avons sur cette terre. Pourquoi elles sont entachées de méchanceté ou d'injustice ? Ben, je vous pose la question. Combien de richesses aujourd'hui sont créées ou obtenues dans ce monde par l'exploitation des plus faibles, par les plus puissants ? Combien d'enfants ont travaillé pour les habits que nous portons aujourd'hui ? Combien de travailleurs ont pris des risques insensés, ont été payés une misère pour construire l'ordinateur que j'ai, le vidéoprojecteur ? Combien d'éleveurs ou d'agriculteurs m'ont permis ce matin d'avoir un petit déjeuner et ont été rémunérés à un prix juste ? Et je ne prends que les exemples les plus évidents, connus de tous. Alors qu'on le veuille ou non, ces richesses terrestres, effectivement, elles sont souvent entachées d'injustice. Et un jour, elles nous échapperont. Un jour, elles manqueront. Un jour, ce sera fini. Soit parce qu'une crise ou une catastrophe va passer par là, ou soit simplement parce qu'un jour, je vais mourir. Et donc, mes biens et mes richesses, je ne vais pas les emmener avec moi. Je ne les aurai plus. Et le point que Jésus est en train de mentionner, c'est de dire, si vous avez de telles richesses, utilisez-les. Utilisez-les avec habileté. Utilisez-les et soyez rusés. Pendant que vous les avez, soyez malins comme ce gérant a été malin. Moi, je trouve que c'est bien que Jésus dise ça à ceux qui sont riches. Vous n'êtes pas d'accord avec moi ? Puisque vous avez des richesses, mais utilisez-les de manière sage et intelligente, n'est-ce pas, vous les riches ? Mais peut-être que vous avez noté avec moi qu'il n'était pas en train de parler aux riches. Il n'est même pas en train de parler à la foule. Il parle à ses disciples. Il nous parle. Et on se souvient à l'époque, ses disciples, pour la plupart, ne sont pas spécialement riches. Peut-être certains l'étaient, Matthieu, collecteur d'impôts. Mais il y a plein de pêcheurs qui étaient là, qui n'étaient pas forcément spécialement riches. Alors pourquoi est-ce que Jésus dit ça ? Là, il faut peut-être qu'on regarde aussi un peu le contexte. Au début du chapitre 15, donc le chapitre juste précédent, on voit que ces sales traîtres et collaborateurs de collecteurs d'impôts qui s'en mettent plein les poches sont là, autour de Jésus. Les pécheurs notoires, c'est-à-dire ceux qui ne veulent pas faire la volonté de Dieu, et ça se voit, et tout le monde le sait, ils sont là aussi, et ils ont envie d'entendre Jésus. Alors, bien naturellement, les pharisiens et les spécialistes de la loi s'en indignent. Enfin, Jésus, ces gens ne sont pas fréquentables quand même. Alors Jésus leur raconte trois paraboles, à eux, les pharisiens et les spécialistes de la loi, mais aussi à la foule. Il commence par une première parabole qu'on a déjà évoquée, celle d'un berger qui est assez fou pour abandonner 99 brebis et pour aller en chercher une seule, celle qui s'est perdue. Mais ce berger, il explose de joie quand il retrouve cette brebis. Ensuite, il leur parle d'une femme qui partage sa joie avec ses amis et ses voisines, pas parce qu'elle avait 10 pièces d'argent, mais parce qu'elle en avait perdu une et elle l'a retrouvée. Et puis après, il parle de la parabole de ce père qui fait une grande fête parce que son fils qui l'avait renié, son fils qui lui avait tourné le dos, son fils qui avait dilapidé une partie de ses biens, revient et lui l'accueille à bras grands ouverts. Trois paraboles qui nous parlent du désir profond, intense de Dieu de voir des hommes et des femmes venir ou revenir à lui. Trois paraboles qui parlent de la joie des anges, de la joie dans le ciel, de la joie de Dieu à chaque fois que ça arrive. Des paraboles qui parlent de l'accueil à bras grands ouverts, de l'accueil chaleureux, de l'accueil festif que Dieu réserve à chaque homme et à chaque femme qui veut changer profondément et se tourner vers lui. Un message magnifique, un message profond, un message que ces pécheurs loin de Dieu, comme ces pharisiens, ont besoin d'entendre. Mais après avoir donné ce message, après cette proclamation forte, il se tourne vers les disciples et il a un message pour eux, cette parabole. Cette parabole du gérant malhonnête, ou plutôt cette parabole du gérant avisé et malin, même si malhonnête. Si vous avez des biens, de l'argent, même si ces biens et cet argent sont entachés d'injustice, utilisez-le. Utilisez-le pourquoi ? Pour des amis qui vous accueilleront, ou ça ? Dans des demeures éternelles. Littéralement, dans des tabernacles, le terme grec veut dire tabernacle, c'est-à-dire des lieux où Dieu a sa présence et qui sont liés à l'éternité. Est-ce que Jésus est en train de parler du ciel juste après la mort ou de la résurrection quand Jésus viendra et régnera pleinement ? Je ne sais pas et ce n'est pas important. Mais Jésus est en train de lancer à ses disciples, à nous, une magnifique invitation. Dieu désire tellement que des hommes et des femmes intègrent son royaume, c'est-à-dire deviennent nos amis pour l'éternité. Et il est en train de dire, vous pouvez y contribuer. Vous pouvez y contribuer par vos biens et vos richesses. Pas que par vos biens et vos richesses, mais entre autres par vos biens et vos richesses. Cette fête pour ceux qui se repentent, Dieu nous fait la grâce d'y contribuer. Ce désir intense de Dieu. Mais Jésus nous invite à l'avoir également et à participer à cette réalisation par nos biens et nos richesses. Et au cas où ça ne suffise pas, au cas où je ne serais pas assez sensible au cœur de Dieu, et pardon Seigneur parce que je sais que c'est le cas, et c'est trop souvent le cas, je comprends dans ces paroles de Jésus, dans ces versets qui suivent, qu'il va même jusqu'à dire que comme ce gérant agit pour son propre intérêt, c'est également dans mon propre intérêt de mettre mes biens, mon argent, mes richesses au service du royaume de Dieu. Et Jésus nous donne ce magnifique comparatif dans les versets 10 à 12. Être avisé, être malin, être habile, être prévoyant dans la gestion de mes richesses, de mes biens, c'est les utiliser pour son royaume. En étant prévoyant et en anticipant le futur, je vois aussi le désir de Dieu et sa grâce de me bénir aussi dans ce qu'il a prévu pour moi. Aujourd'hui, maintenant et temporairement, j'ai des choses, des richesses entachées d'injustice qui ne m'appartiennent pas parce qu'en réalité elles lui appartiennent à lui, des petites choses. Et il me demande d'être fidèle dans ces petites choses parce qu'il veut m'en confier des beaucoup plus importantes, parce qu'il veut m'en confier des véritables, parce qu'il veut me donner des choses qui me sont personnellement destinées. Il y a dans cette parabole une magnifique invitation à l'action et une grâce, celle d'entendre le désir de Dieu, celle d'avoir un cœur qui bat au même rythme que celui de Dieu et de sentir ce désir qu'il a que nous ayons une foule d'amis dans l'éternité et donc d'agir en conséquence par rapport à nos biens et nos richesses. Il y a une grâce et une invitation. Cette grâce, c'est celle d'être béni pour recevoir des choses véritablement précieuses et importantes. Et cette parabole nous invite à agir en conséquence pour obtenir ces biens véritables. Mais il y a aussi un avertissement, ou en tout cas une invitation à l'examen. D'une manière générale, et moi le premier, qu'est-ce que j'aime ces paroles de Jésus qui sont pleines d'amour et de grâce, n'est-ce pas ? Qui me réconfortent et me font du bien. Mais dans son amour, ou peut-être même à cause de son amour, Jésus parfois a aussi des paroles qui sont dures, des paroles qui sont plus difficiles à entendre, et des paroles qui parfois nous mettent mal à l'aise. Et c'est vrai que dans le texte qu'on a lu aujourd'hui, il y a cette invitation dont je vous ai parlé. Si vous êtes fidèle dans les petites choses, si vous êtes fidèle dans ces richesses entachées d'injustice, si vous êtes fidèle dans ce qui ne vous appartient pas vraiment. Mais il y a aussi un impératif. Utilisez. Utilisez vos biens et vos richesses. Et si je ne suis pas à l'aise avec cet impératif, avec ce commandement, s'il y a quelques réticences ou hésitations dans mon cœur, Jésus m'invite à la réflexion et à l'examen. Aucun serviteur ne peut être en même temps au service de deux maîtres. En effet, ou bien il détestera l'un et aimera l'autre, ou bien il sera dévoué au premier et méprisera le second. Parce que vous ne pouvez pas servir en même temps Dieu et l'argent. Quelle est la place de l'argent dans mon cœur ? Quelle est la place de l'argent, de mes biens, dans mon sentiment de sécurité aujourd'hui ? Est-ce que finalement, mes biens et mes richesses ne prennent pas trop de place dans ma vie ? En conclusion, j'aimerais revenir sur cette double invitation, comme je le disais. Une invitation à l'action, une invitation à l'examen, à la réflexion. Comment est-ce que je peux aider d'autres à saisir la vie éternelle, y compris par mes biens et mes richesses ? Je peux permettre l'avancement du royaume de Dieu, et Jésus me le demande, par mes biens et mes richesses. Je peux aider d'autres à saisir la vie éternelle, à obtenir la vie éternelle en Jésus-Christ. Vous avez remarqué comme moi que Jésus ne dit pas vraiment concrètement ce que ça veut dire, ou pratiquement ce que ça veut dire. Peut-être parce qu'il nous invite, chacun, à y réfléchir, à y répondre de notre côté. Comment est-ce que je peux, par mes biens, par mon argent, contribuer à l'avancement du règne de Dieu, à l'annonce de l'Évangile ? Oui, aussi par mes prières, oui, aussi par mon temps, mais aussi dans la gestion sage et avisée de mes biens. Est-ce que c'est donner à l'Église ? Est-ce que c'est soutenir des missionnaires ? Est-ce que c'est soutenir une œuvre ? Est-ce que c'est accueillir ? Est-ce que c'est partager ? À chacun et chacune d'entre nous de se mettre devant Dieu et d'y répondre. Une invitation aussi à réfléchir et à s'examiner. Quelle place pour mes biens, mes richesses, mon argent dans mon cœur, dans ma vie ? Est-ce que j'y suis pas un peu trop attaché ? Est-ce que je n'y vois pas là une fausse sécurité ? Est-ce que tout cela ne fait pas un peu d'ombre à Dieu dans ma vie et dans la place qu'il devrait avoir en tant que Dieu ? Je vous invite à prendre quelques instants de méditation sur ce qui a pu être partagé ce matin, sur cette parabole, que nous puissions nous placer devant Dieu, réfléchir, s'examiner, peut-être s'engager. Oui Seigneur, tu es Dieu, tu es notre Dieu. Et pardon pour tout ce qu'il y a dans notre cœur et qui prend trop de place, qui prend trop de ta place. Pardon pour toutes les fois où nous appuyons sur autre chose que toi. Pardon pour toutes les fois où tu n'es pas tout pour nous. Seigneur, remets les choses à leur place. Notre désir, c'est de répondre à ton appel. C'est de vivre pleinement pour toi. C'est que nous ayons des vies dans lesquelles tu te réjouisses. Seigneur, s'il y a des choses à mettre de côté, s'il y a du ménage à faire dans nos vies, Seigneur, nous voulons le faire. Merci de nous parler dans ce sens. Merci aussi de nous inviter à désirer comme toi que nous soyons nombreux pour l'éternité. Seigneur, rends nos cœurs attentifs à ce désir. Montre-nous comment nous pouvons y répondre, Seigneur. Parce que tu nous fais la grâce aussi de nous utiliser pour cela. Par notre temps, par nos prières, mais aussi par nos biens. Et Seigneur, nos biens sont à ton service. Merci de nous éclairer, nous conduire concrètement dans ce que tu attends de nous par rapport à ça, dans les choix que nous avons à faire, Seigneur. Donne-nous de la sagesse. Donne-nous d'être malins et avisés, Seigneur. Pour que ces petites choses, ces richesses injustes, puissent produire de grands fruits. Pour ta gloire, Seigneur, et pour ta gloire seule, nous te prions. Amen.